les photographes, membres de l'agence Magnum fondée il y a 70 ans par Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour et George Roger, elle s'est fait connaître par ses images de l'Amérique centrale dans les années 70 et 80, notamment le Nicaragua, grâce à la force de ses photographies en couleur. Avant une rétrospective au Jeu de Paume à Paris en début d'année prochaine, un livre revient sur l'ensemble de son parcours, un livre que nous allons feuilleter en sa compagnie. Bonjour Suzanne Meselas.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Et merci à FDR qui est avec nous pour traduire simultanément vos propos. Suzanne Meselas, si je vous demande de citer une photo de vous dans l'ensemble de votre carrière, spontanément, laquelle ce serait ?
Ça c'est difficile, car 40 ans. je pense la Molotov Man.
Je crois que l'homme Molotov.
Vous pouvez la décrire?
Well, the Molotov Man was a moment in Nicaragua, the
Cette
very
photo,
last day of the insurrection
Molotov,
in a town called Estelí.
Je l'ai prise dans une ville qui s'appelait Estelí, le dernier jour de l'insurrection,
the country, so
dans la
a very dramatic
soirée.
Memory for the Nicaraguans. And I happened to be lucky to catch a
C'était un moment tout à fait tragique,
Pepsi
un tournant
bottle,
historique, et j'ai eu la chance de tomber sur cet homme qui avait fabriqué un cocktail Molotov dans une bouteille de Pepsi. Mais plus que la photo elle-même, c'est toute la vie intérieure, la vie à elle qu'a eu cette photo, qui a continué d'évoluer.
Capturing a moment in time and
Et
thinking
j'ai saisi
about photographs
un instant dans l'histoire, mais
and
après,
so,
je ne cesse d'y repenser. Cet homme,
and
il
Pablo,
s'appelle Barata. Et Pablo, que j'ai rencontré
so
plus
him.
Tard, j'ai beaucoup appris par lui aussi.
Comment êtes-vous devenu photographe? Vous n'avez pas appris à l'université. Vous dites dans ce livre que j'ai cité que vous devez votre éducation visuelle essentiellement au cinéma.
Exactement. I think the influences of the time, but there was no formation because in the 60s,
J'ai subi toutes les influences de l'époque, mais il n'y avait pas de formation véritablement à l'époque dans les années 60. Dans les facs, il n'y avait pas de chaire de photographie.
To looking at the reality around me,
à l'époque, mais j'étais très attirée par la découverte de la réalité autour de moi, très jeune. Mais effectivement, je n'ai pas suivi de formation. Et je me dis avec le recul que c'est aussi bien, sans doute, parce que j'ai appris sur le terrain, j'ai appris à regarder le monde et à réagir au monde sur le terrain.
Réagir au monde, l'observer autour de vous, observer la réalité, est-ce que c'est pour dire quelque chose du monde que vous avez choisi la photographie au final?
Je ne sais pas. Déjà, je crois qu'on ne sait pas ce qu'on a à dire, ce qu'on pourra avoir à dire. On observe, on ne sait pas ce qu'on pense, et puis la curiosité nous guide, nous attire. On a envie de savoir, on a envie de découvrir. On s'abandonne à ce temps de l'observation. Et quand je prends des photos, je vis vraiment dans le présent. J'ignore ce qu'il va advenir de mes photos. Et bien sûr, mes idées, mes envies de travail se forment. C'est tout un processus lorsque je suis sur le terrain et quand je regarde le monde autour de moi. Il y a l'expo Paris Photo actuellement. On voit des tonnes de photographies. On ne sait rien de l'historique, du contexte, ni même des sujets qui sont photographiés. Aucun contexte. Or, ça me turlupine. Je me pose toujours ces questions. Donc, ce n'est pas juste le sujet de la photographie ou l'objet photographique même si j'adore réfléchir sur ces objets, les pensées. Mais ce qui m'intéresse davantage encore, c'est comment après ces clichés sont partagés, comment on s'en souvient, comment on s'en rappelle à travers les ans, les années. Et puis elles sont présentées sous différentes formes, dans un livre ou dans une exposition, et suivant si on découvre une photographie dans le cadre d'une expo ou dans un livre de photos, on ne va pas y réagir pareil. Tout cela me passionne.
Suzanne Meselas, qu'est-ce qui fait qu'une photo, on s'en souvient? Est-ce que vous êtes capable de nous le dire? Qu'est-ce qui fait qu'une photo marque par rapport à une autre? Je pourrais vous poser la question autrement. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est réussie?
I do know that
when I edit a contact sheet or now digital.
Parfois, quand je travaille sur des planches contact ou sur des dossiers numériques maintenant,
what I was searching for in the making of that frame, that specific frame. So I know.
Généralement, je sais ce que je recherche comme effet. Je sais le type de cadre. J'aime les photographies qui ont plusieurs strates, plusieurs focus, où l'œil peut danser dans le cadre. Et ça, j'aime la combinaison à la fois de l'esthétique et du contenu. Il faut que les deux soient au rendez-vous, mais je peux aussi aimer une autre esthétique radicalement différente de la mienne dans la photo.
A certain kind of engagé, you know, I like to
mon travail
be
est
present,
dit,
but not be
engagé,
in
vous
relation
le savez.
To the subject.
Mais
so
j'aime être présente, mais je ne veux pas engager nécessairement une relation avec le sujet ou qu'il réagisse à moi. Moi, j'aime être l'œil qui est là présent, mais moi-même, je suis absente. Je me mets en retrait. Et parfois, on le sent, on ressent un fort lien au moment où on appuie sur le bouton. Et les bonnes photos, eh bien, à chaque fois, ça me fait toujours la même chose. J'éprouve de nouveau exactement ce que j'ai ressenti. Mais si je regarde une photo sur les CIMES de Paris Photo, je vais voir quelque chose de formel, d'esthétique, de très différent de ce que je fais, mais qui peut quand même m'attirer. En revanche, je sais que je n'ai rien à voir avec la personne qui a pris cette photo. À mon avis, les photographies, eh bien, elles marquent, elles sont un indicateur de la relation qu'a le photographe avec son sujet, ou même avec lui-même. Et je viens de découvrir les dernières photos de Zanelli Moholy et certains de ses portraits et autoportraits. C'est une photographe sud-africaine, pardon. Ce sont des photos très puissantes, très fortes. Et elle se met en scène avec un sens de toute l'histoire qui la précède et l'histoire actuelle. Mais vraiment, c'est dans un style totalement opposé au mien. Je ne pourrais jamais faire ce genre de photo. Il y a eu un autoportrait de moi, mais je suis assise sur une chaise et en fait je me lève au moment où on prend la photo. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'aime être présente tout en étant absente. J'aime être là et m'effacer immédiatement.
Suzanne Mezelas, vous disiez aussi que vos photos sont entre esthétique et contenu, on pourrait dire entre art et journalisme, ce qui est la définition des auteurs de Magnum. Vous êtes entrée à Magnum en 1976. Les auteurs de Magnum, les photographes de Magnum, qui je le rappelle est une coopérative et c'est la plus célèbre agence photo du monde qui réunit les plus grands photographes, ne se disent ni artistes ni photojournalistes, mais auteurs. Donc ce serait presque la définition, même l'incarnation de ce que vous venez de dire.
C'est exactement ça.
Et je fais partie d'une culture que j'ai eu la chance de découvrir, la grande culture Magnum. Je les ai découverts accidentellement. J'ai rencontré Gilles Perez. J'avais déjà fait mon travail Carnival Strippers sur les stripteaseuses des foires de la côte Est. J'avais donc déjà ma propre démarche et je n'avais aucune idée que j'aurais envie de devenir un photographe qui ferait des reportages dans le monde entier. Mais ma vie a réellement changé grâce à Magnum.
Et vous disiez que les photos, pour vous, doivent être des moments où on peut entrer dedans, puis en sortir à travers tout ce que la photo ne dit pas, ou tout ce que la photo, au contraire, nous dit, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'image, mais ce qu'il y a aussi hors de l'image, et qui me fait penser à un de vos confrères, à Raymond Depardon, qu'on recevait ici il y a quelques semaines. Et il nous disait que, pour lui, ce qui était très important aussi dans la photo, c'était le hors-champ, ce qu'on peut imaginer en dehors, toutes ces multiples histoires que la photo ne va pas montrer mais qu'elle va suggérer. Vous vous dites dans votre livre, dès le départ, mon travail s'est fondé sur l'idée que le récit devait déborder du cadre de la seule image.
Interesting.
Il faut que la photo raconte des histoires, plein d'histoires.
Yes, but there's It's interesting the question of imagination because we know
oui, c'est intéressant cette question de l'imagination parce qu'on sait quand on prend une photo combien le cadre est, limite les choses et on sait qu'on isole un moment dans la fluidité du temps, ce n'est qu'un fragment, un instant et qui pourtant peut revêtir une telle force symbolique. C'est toute cette tension là. Il y a un moment de vérité, un moment authentique parce que moi je ne fais pas de reconstitution. Je ne reconstruis pas une scène. Je ne demande pas à mes sujets de se déplacer. C'est donc un processus très intuitif. Et c'est intéressant ce que vous dites sur Raymond Depardon. Je l'ai rencontré très tôt. Quand je suis arrivée à Paris en 77, parce que je venais de rejoindre Magnum, il n'était pas encore dans l'agence Magnum. On est allé au Tchad ensemble parce qu'il faisait un film là-bas et il avait besoin d'une photographe. Ça a été une très belle expérience, un beau voyage. Mais à l'époque, je ne m'imaginais même pas me rendre dans des contrées aussi lointaines que je ne connaissais pas. Et cet esprit de la découverte, du voyage, du partir. Mais parfois, une photo, ça peut être très superficiel. Ça effleure la surface des choses, la surface du souvenir d'un voyage. Et pourtant, ça peut déclencher des tas de souvenirs. On réagit différemment. Et puis, aux photos qu'on a prises nous-mêmes ou ceux que les autres ont prises, il y a une distance là qu'on ne peut pas toujours franchir. Mais quand même, je pense que les photos nous relient, nous, l'humanité, les humains, les uns aux autres, d'une manière très profonde. Et ce lien que crée entre les humains la photographie, c'est à travers justement ces histoires qu'elle évoque, qu'elle suggère.
On va revenir sur ces voyages, Suzanne Mezelas, que vous avez fait, notamment en Amérique centrale, hein, puisque vous avez passé une dizaine d'années à photographier différents pays, notamment le Nicaragua. Vos photos les plus célèbres ont été prises au Nicaragua. Mais quand on regarde ce livre édité chez Xavier Barral, éditeur, qui s'intitule « En première ligne » et qui est une sorte de rétrospective de vos images, on se rend compte que vous avez, par exemple, photographié les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Je pense à ces images que vous avez évoquées tout à l'heure et qui sont d'ailleurs, pour quelques-unes d'entre elles, en ce moment à Paris Photo, des images des stripteaseuses photographiées dans les années 70. Je vais vous demander de nous en parler. Mais vous avez aussi photographié à partir des archives de la violence conjugale. On voit des images de lits sur lesquels il reste des draps ensanglantés, par exemple. Bon. Et vous avez aussi photographié un club SM à New York. Et il s'agit toujours de la même chose, de ce pouvoir. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à photographier ces rapports de pouvoir entre hommes et femmes à différents moments, à différents endroits?
It's so hard to know when you have such an intuitive process.
C'est difficile de répondre précisément parce que tout cela relève d'une démarche intuitive. Je crois que c'est lié à l'époque dans laquelle j'ai grandi. Il y a eu 68, les grandes manifestations à Washington contre la guerre, l'équité raciale, le devoir de parler, de témoigner, et puis le Women's Lib, le mouvement de libération de la femme. C'était mes influences à l'époque. Donc, il n'est pas surprenant que je sois allée vers ce travail. Mais évidemment, ce n'était pas conscient et je ne me dis pas, allez, je recherche tel cadre pour mon premier travail photographique. De même que je ne sais pas du tout quel sera mon travail dans les années qui viennent. Je peux juste regarder en arrière et comprendre pourquoi j'ai été là où j'ai été.
Eh ben c'est pour ça que je vous pose la question, bien sûr, Suzanne Mezelas, parce que nous avons maintenant un livre qui fait la rétrospective de votre parcours. Et donc, on peut avoir une vision plus synthétique que vous ne l'aviez, vous, quand vous aviez commencé votre travail. Mais question du coup plus générale, est-ce que vous avez choisi les sujets sur lesquels vous avez été, ou est-ce que vous avez été choisi par vos sujets? Est-ce que vous vous êtes laissé guider par le hasard?
There's a combination of being This is the great question of life, isn't it?
Oui,
are we
ben
fated,
ça,
or do we determine our destinies?
La grande question de la vie et du libre arbitre, est-ce qu'on est maître de nos destinées? Je crois que c'est un mélange des deux, à mon avis.
How would life have been different if I had passed by?
Bien
the girl
sûr,
standing on the
la vie aurait été différente si j'étais passée à côté de ces baraques foraines sans prêter un regard à ces prostituées, notamment celle-là, celle qui a attiré mon regard. Elle était même plus âgée que moi, j'étais très jeune. Et il y a cet instinct à s'immerger dans un monde qu'on découvre. Et j'aurais pu m'enfuir. Le Nicaragua, par exemple, mon travail au Nicaragua, j'aurais pu être attiré dans la dynamique du pouvoir. On ne savait pas que les sandinistes allaient chasser Somoza. Personne ne l'imaginait, surtout après la crise de Cuba. Donc je crois que c'est une sorte de convergence, de conjoncture, tout converge et finit par former un faisceau. Et à l'intersection de toutes ces forces, c'est là que se situe le travail. Ça relève un peu de l'inconscient. Mon corps, il est un peu comme une énorme archive. Et quand je me déplace, je déplace toutes ces archives avec moi et je découvre le monde avec ça. Mais je dirais que c'est le corps et l'esprit qui sont à l'œuvre, tous deux.
C'est intéressant, Suzanne Mazella, ce que vous parliez d'archives, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se dégage de l'ensemble de votre travail. C'est la volonté d'archiver, la volonté de laisser, alors je ne sais pas, une trace, une empreinte. Alors c'est vrai dans les archives de la violence conjugale, c'est vrai aussi de votre travail entrepris autour des archives documentaires du Kurdistan. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez fait de votre vie une vie de photographe, c'est-à-dire laisser une trace, laisser un souvenir, témoigner de quelque chose qui s'est passé? C'est ça le propre de la photo.
I mean, I can't not think about that when I'm opening the first page of this book.
Bien
and
sûr,
I see
je pense à tout ça quand j'ouvre ce livre.
It's visual evidence.
Sur la première page, je découvre cette photo, une
it's
preuve visuelle
left.
D'une vie
we
qui a existé et qui n'est plus. Il n'en reste que ça, que ce chandail, on ne sait rien d'autre. Des vêtements abandonnés sur une tombe, là, dans le nord de l'Irak.
Was covered by the clothes that then were all that was left when the bones were found.
Et il y avait un corps sous ces vêtements.
So, yes,
et on n'y a trouvé que des os. Et maintenant, seuls les vêtements restent sur la terre.
Forever, in one sense.
C'est vrai qu'une photographie représente un instant, mais elle est là éternellement en un sens.
The question is how it changes over time.
La question qui se pose, c'est comment est-ce que cette photo va évoluer avec le temps ou comment est-ce que notre regard va évoluer parce que nous aussi, on a changé et on comprend le temps différemment en revenant vers ce cliché. Les photographies sont vraiment un indicateur de notre relation au temps. Et les archives, bien sûr, c'est une manière de retrouver le passé, parce qu'on ne voit pas toujours le passé dans le présent.
Suzanne Mazellas, nous aussi, nous avons un indicateur de temps, c'est l'horloge à la radio. Il est 7h30, on vous retrouve dans deux petites minutes, à tout de suite. Les titres de l'actualité avec vous, Camille Magnard.
Le jeu dangereux de l'Arabie Saoudite au Proche-Orient, soupçonné de retenir contre son gré le Premier ministre démissionnaire du Liban. Riyad est accusé par le Hezbollah libanais de préparer une attaque contre le pays du Cèdre via Israël et pour s'en prendre aux intérêts de l'Iran dans la région. Faut-il craindre un nouvel embrasement? Nous poserons la question dans une demi-heure à Étienne Monin à Jérusalem. L'accord de libre-échange Asie-Pacifique n'est pas mort malgré le retrait brutal des États-Unis voulu par Donald Trump. 11 pays des deux côtés de l'océan préparent une nouvelle version confirmation de leur partenariat transpacifique. Ils l'ont annoncé ce matin à Da Nang, au Vietnam, où ils sont réunis au sommet de l'APEC. Les États-Unis ont-ils envisagé de livrer à Ankara Fethullah Gulen, l'ennemi public numéro un dans la Turquie du président Erdogan? Selon le Wall Street Journal, l'ex-conseiller de Donald Trump, Michael Flynn, a rencontré l'an dernier des proches du président turc qui lui ont proposé 15 millions de dollars en échange du prédicateur accusé d'avoir fomenté la tentative de putsch en Turquie en juillet 2016. Le père la victoire célébré par Emmanuel Macron en ce 11 novembre, Georges Clemenceau, au centre des commémorations officielles. Quel sens donner à ce choix politique pour le chef de l'État? Nous poserons la question à 8h à Franck Cognard. La cocarde est également à l'honneur dans les allées du salon du Made in France qui se tient tout le week-end à Paris. Pas sûr que la préférence nationale joue vraiment dans les choix des consommateurs, mais ça n'empêche pas des centaines d'entreprises de colorer leur marketing en bleu, blanc, rouge. Et puis les gauches radicales européennes sont réunies à Marseille ce week-end, toutes, sauf une, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, grande absente de ce forum européen qui réunit le PCF, les Grecs de Syriza et les Espagnols de Podemos. Notamment, enfin, le mystère autour de ce nuage radioactif du ruthénium-106 détecté par les capteurs de plusieurs instituts européens il y a quelques semaines. Selon l'IRSN français, la pollution vient de Russie. Moscou dément en tout cas tout accident sur ces sites nucléaires.
Et ben on en saura plus tout à l'heure à 8h avec vous dans le journal. À suivre dans la prochaine demi-heure, la suite de notre entretien avec Suzanne Mezellas. Et à 7h40, la Fabrique médiatique sur les Paradise Papers avec Cécile Prieur du Monde et Benoît Pringer de Première Ligne.
France Culture, en public à Cité Philo, à Lille, les 10 et 11 novembre, avec les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett.
Et vous, que croyez-vous? Croit-on en Dieu comme on croit que la Terre est plate? Quelle différence entre la croyance et la foi? Est-il vrai que plus l'on connaît, moins on croit? Et comment éviter que la croyance ne se change en superstition? Pascal Spinoza, mais aussi Delphine Horviller et Claudine Tiercelin seront là pour répondre à ces questions. Enfin, je crois.
Les chemins de la philosophie à Cité Philo, les 10 et 11 novembre, auditorium du Palais des Beaux-Arts à Lille. Plus d'infos sur franceculture.fr.
On trouve notre invitée, Suzanne Mezellas, photographe, que je remercie encore d'être avec nous ce matin. On vous quittait il y a un instant sur les premières images qui ouvrent ce très beau livre de rétrospective de votre carrière, Suzanne Mezellas. Ce livre édité chez Xavier Barral, en première ligne, vous nous parliez des premières images qui l'ouvrent, qui sont des images en couleur, pleine page, prises il y a une vingtaine, un peu plus, en 91-92 d'années, dans le nord de l'Irak, où l'on voit d'abord des vêtements exhumés pour procéder à l'identification de cadavres anonymes. On voit des villageois qui assistent à la découverte d'un charnier à Korémé. On voit un homme qui montre le crâne d'un jeune homme exécuté après avoir eu les yeux bandés. Ça démarre très fort et en même temps, ça dit, je pense, exactement le style de vos photos. C'est-à-dire, en première ligne, quoi. Vous êtes en immersion. Quand on voit vos images, ce n'est pas seulement la question de la représentation de la violence que vous avez eu sans doute à vous poser comme question tout au long de vos voyages, dans les zones de conflit en particulier, mais vous montrez la vie en train de se faire, parfois la mort étant passée par là, mais vous montrez, on est dedans, on est en immersion. Est-ce que ça, c'est une intention photographique?
Absolument, absolument. Ça, c'est la chose plus importante pour moi. Si c'est possible que la photo donne the path inside. Because of course we can't be inside fully.
Oui, que la photo nous guide vers l'intérieur du sujet, outside, d'une scène. Parce qu'on est toujours à la marge, à l'extérieur, ou du moins on est aussi à l'intérieur que peut l'être un outsider. Mais tel est mon souhait, mon intention, oui, de rapprocher les sujets de ceux qui vont les regarder et de moi.
Il me semble qu'il n'y a jamais, malgré parfois la violence des images que vous montrez, il n'y a jamais de voyeurisme. Est-ce que malgré tout, il y a des photos que vous vous êtes refusé à prendre, des limites que vous vous êtes mises?
Yes, I think you know there are pictures I can remember not taking because I felt.
Il y a des photos que je me rappelle ne pas avoir prises.
It wasn't the right response. It wasn't
parce que ce n'était pas la bonne attitude. Ce n'était pas l'attitude juste.
How you again feel in a particular place, ready?
Et la question de dans un lieu donné. Est-ce qu'on est prêt à réagir, à répondre? C'est très subtil tout cela. Je me rappelle au Salvador, quelqu'un qui avait été tué dans la rue, on a ramené le corps dans la maison, on m'a invité à les suivre et je n'ai pas pris la photo. Mais les gens autour voulaient que je prenne la photo. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, on ne prenait pas des photos comme ça. Le monde a tellement changé. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que tout le monde pense avoir le droit de photographier tout et tout le monde et n'importe qui, n'importe quoi. On ne demande jamais la permission. Moi, je n'aime pas que la prise d'une photo soit une confrontation. J'aime que ce soit consensuel et que les sujets acceptent implicitement cette relation, parce qu'en fait, c'est une collaboration. Même si les gens que je photographie ne me regardent pas, ils sont conscients de ma présence. Moi, je sais que je suis là. Et bien sûr, on sait très peu l'un de l'autre, mais au moins, il y a cet accord, cette approbation, et qui ouvre aussi la possibilité d'un échange ultérieur.
Vous évoquez, Suzanne Mezelas, ces smartphones et la possibilité pour tout un chacun aujourd'hui de faire des photographies. Ce monde saturé d'images, dans lequel l'image est partout, ce marché d'ailleurs de la photographie en expansion, mais qui laisse moins de place dans les journaux aux photographies, paradoxalement. Qu'est-ce que ça change pour un photographe professionnel comme vous?
Je crois que c'est formidable
qu'il y ait encore plus Dieu qui se pose sur le monde, qu'il regarde, qu'il réfléchisse. Moi, je ne vois pas ça comme un univers concurrentiel. Je crois que c'est intéressant de s'interroger sur la manière, une manière nouvelle de raconter les histoires, d'engager celui qui regarde.
Dans les années 70, vous photographiez avec un Leica. Aujourd'hui, vous photographiez avec un téléphone portable?
Sometimes.
Quelquefois. Mais la dernière fois que j'ai pris une photo sérieuse avec un iPhone, c'était dans un salon de coiffure africaine. Il n'y avait d'ailleurs pas que des jeunes femmes afro-américaines, il y avait aussi des portoricaines, et c'est tout sur l'art de la tresse africaine. C'était fascinant, ce monde de femmes, ce gynécée. Toutes avaient les yeux rivés sur leur iPhone et elles avaient trouvé des photos sur le net. Oh, ben, je veux cette coiffure, etc. Donc, comme elles avaient toutes leur téléphone portable à la main, ben j'ai photographié comme ça en train de regarder les magnifiques coiffures qu'elles voulaient. Et puis à un moment donné, j'ai pris une photo, je l'ai montrée à cette jeune femme. Et elle m'a dit simplement, ça ne me plaît pas, effacez-la. Ça m'a fait mal au cœur, mais je l'ai effacée. Et elle voyait ce que je voyais d'elle, ce que j'avais perçu d'elle et ce que j'avais rendu dans cette photo. Il y a toujours une tension. Et il faut être honnête. J'ai proposé, elle a rejeté ma proposition. Ben voilà. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going back to find. Merci beaucoup, Suzanne Mezelas. Merci de nous avoir raconté quelques histoires qui ont donné lieu à des photos ou à des absences de photos, manifestement. Je rappelle que vous êtes en ce moment exposé à Paris Photo jusqu'à demain, dimanche. On peut notamment voir les photos de vos stripteaseuses à la galerie Danziger. Vous serez demain à Paris Photo à la plateforme à 13h45 en conversation avec Marc Holborn, avec qui vous avez fait ce livre chez Xavier Barral, éditeur en première ligne. Très beau livre où on retrouve, outre les stripteaseuses, le Nicaragua, mais aussi le Salvador, le Kurdistan, les Dani d'Indonésie, la favela Cova de Moura au Portugal et bien d'autres choses encore. Et j'annonce qu'en ce moment, vous êtes en rétrospective, décidément, à la Fondation Tapiès à Barcelone et que vous serez l'année prochaine, dès le 4 février 2018, au Jeu de Paume pour une grande rétrospective. Merci beaucoup.
Merci à vous.